VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 28 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
En République centrafricaine, une unité de police anticriminalité accusée d'avoir exécuté froidement 18 personnes.
Au Congo-Brazzaville, le procureur de la République a requis 5 ans d'emprisonnement contre l'opposant Paulin Makaya.
En République démocratique du Congo, début d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune le mois prochain.
Les dirigeants de l'Union européenne vont presser aujourd'hui Londres de déclencher la procédure de divorce sans perdre de temps, à raison des risques sur les marchés. Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco, pour l'instant le journal.
En Centrafrique, selon Human Rights Watch, au moins 18 personnes ont été exécutées froidement par une unité de police anticriminalité entre avril 2015 et mars 2016. Le point avec Arzuma Compaoré.
L'ONG accuse nommément Robert Yekoua, qui était l'ex-directeur de l'Office central de répression du banditisme. Il aurait personnellement mené une exécution et ordonné 5 autres. L'ONG a documenté au moins 18 cas d'exécution et 12 autres personnes tuées de manière similaire entre avril 2015 et mars 2016. L'Association de défense des droits de l'homme publie la photo et le nom des victimes, dont un garçon âgé de 14 ans. Il avait été amené sur un terrain vague où les hommes de l'OCRB lui auraient tiré une balle dans le dos et à la gorge alors qu'il avait les mains liées. L'ancien directeur de l'OCRB serait directement impliqué dans 13 incidents selon l'ONG, qui salue la décision de Bangui de le démettre de ses fonctions début juin. L'ONG appelle le gouvernement centrafricain à ouvrir une enquête sur toutes ces exécutions extrajudiciaires. Le ministre centrafricain de la Sécurité, Jean-Serge Bokassa, a promis que si ces allégations sont avérées, Robert Yekoua Kété devra répondre de ses actes comme tout autre citoyen.
Au Congo-Brazzaville, le procureur de la République a requis 5 ans d'emprisonnement contre l'opposant Paulin Makaya, en détention depuis 7 mois et poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et trouble à l'ordre public. Le tribunal rendra son verdict le 25 juillet prochain. De Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Comme à l'accoutumée, c'est aux allures de Nelson Mandela, la main toujours levée vers le ciel, que Paulin Makaya a quitté le palais de justice de Brazzaville pour rejoindre sa cellule à la maison d'arrêt. L'opposant, de bleu clair vêtu, et contre lequel le procureur de la République a requis 5 ans d'emprisonnement et 5 millions d'amende, a paru serein et défensif tout le long de l'audience de ce lundi. Ce procès politique ne sera pas gagné devant votre tribunal. Il se joue dans les officines politiques, a-t-il lancé au président du tribunal, Valorien Mbembe. Paulin Makaya est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et trouble à l'ordre public. Son avocat, maître Yvon-Éric Ibouanga, a dénoncé l'absence de preuves pendant les plaidoiries, confortant ainsi sa position de voir Paulin Makaya recouvrer sa liberté le 25 juillet prochain, date du verdict. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En RDC, les évêques catholiques appellent à la responsabilité des acteurs politiques pour la sauvegarde de la nation. La Conférence épiscopale nationale du Congo, à l'issue de sa 53e assemblée plénière à Kinshasa, a recommandé au gouvernement congolais de redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources financières afin de garantir la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la SINCO.
En tant que pasteur, ils apportent leur contribution. D'abord pour dire qu'il faudrait le respect de la Constitution qui est le socle et qui nous permet de respecter l'alternance au pouvoir. Mais en plus de cela, ils en appellent à tous les acteurs politiques pour qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils se parlent en face pour dégager un consensus en vue des élections crédibles et apaisées dans notre pays. Ils ont parlé aussi de la crise sociale, la situation de souffrance de la population qui ne fait qu'empirer, les besoins sociaux de base, l'éducation, la santé, l'eau, qui sont très péniblement assurés, et ils en appellent alors aux gouvernants à écouter les cris du peuple. Enfin, ils épinglent aussi la question des droits humains. On assiste à des violations des droits humains, la réduction de l'espace médiatique et d'autres. Alors, ils rappellent aux gouvernants le respect des règles démocratiques et de l'éthique. Ils estiment que malgré cela, il est toujours possible, si on privilégie l'intérêt supérieur de la nation, de se mettre autour d'une table et de dégager un consensus pour la tenue des élections dans le respect de de la Constitution. Ils apporteront, eux, leur soutien, d'abord dans la prière comme pasteur, mais aussi ils offrent leur sollicitude pastorale en appui aux facilitateurs pour obtenir ce rapprochement de politiciens en vue d'un dialogue apaisé et des élections dans le respect de la Constitution.
C'était l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, au micro de notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM.
Toujours au Congo, le ministre de la Santé, Félix Kabange, a annoncé qu'une campagne de vaccination de 11,6 millions de personnes contre la fièvre jaune commencera le 20 juillet. Elle se déroulera dans la capitale Kinshasa ainsi que dans les provinces de Kwango, Lualaba et Kasaï.
Quelque 70 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans pourraient mourir d'ici 2030 si les gouvernements et leurs partenaires n'accélèrent pas leurs efforts pour réaliser les objectifs de développement durable. C'est l'avertissement lancé par l'UNICEF dans le rapport annuel qu'elle a publié aujourd'hui.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne vont presser aujourd'hui le Royaume-Uni de déclencher la procédure de divorce sans perdre de temps, en raison des risques sur les marchés, tout en s'efforçant de tirer les leçons du Brexit pour l'Europe et éviter une contagion à d'autres pays. L'Allemagne, la France et l'Italie ont annoncé leur volonté de donner une nouvelle impulsion au projet européen. Pour sa part, le Royaume-Uni a essayé lundi de rassurer les marchés sur sa capacité à surmonter la crise née du vote pour un Brexit.
Plusieurs attentats suicides menés par des kamikazes ont coûté la vie à au moins 5 personnes à Al-Kar, un village à majorité chrétienne dans l'est du Liban, une région troublée en raison de sa proximité avec la Syrie en guerre. Après une première série d'explosions qui avait fait hier avant l'aube 5 morts et 15 blessés, le même village a été victime dans la soirée de 4 attaques suicides. 13 personnes ont été blessées selon des sources hospitalières.
Dans le sud du Yémen, au moins 35 personnes sont mortes hier dans une série d'attentats suicides contre des militaires à Moukalla, une ville prise aux djihadistes en avril dernier. Éric Manirakiza.
Une source sécuritaire affirme que 3 attentats à la bombe ont visé simultanément des checkpoints dans cette cité portuaire alors que les troupes rompaient le jeûne du Ramadan. Ces attaques ont tué 33 soldats, une femme et un enfant. 25 autres personnes ont été blessées, selon un responsable de la santé de la province. Avec le soutien de la coalition arabe sous commandement saoudien, les forces yéménites ont repris le 24 avril Moukalla aux djihadistes qui contrôlaient la ville depuis un an. En mai, cette ville avait été frappée par un double attentat suicide revendiqué par l'EI et qui avait coûté la vie à 47 policiers. Au cours de la dernière année, un certain nombre de responsables d'Al-Qaïda ont été tués. Washington a reconnu le 7 mai la présence d'un très petit nombre de soldats américains au Yémen pour aider les forces yéménites et la coalition arabe à chasser Al-Qaïda de la ville.
La Cour suprême des États-Unis a réaffirmé avec force le droit des femmes à l'avortement, une question passionnelle qui déchire le pays en cette année électorale. Claire Morin-Gibourg.
5 juges ont voté pour et 3 contre. C'est une grande victoire pour des millions de femmes. C'est aussi un revers pour les pro-life qui avaient obtenu l'imposition de multiples restrictions à l'avortement dans de nombreux États conservateurs. La haute instance judiciaire a jugé illégale une loi de 2013 au Texas qui impose aux cliniques pratiquant des avortements de posséder un plateau chirurgical dernier cri et les médecins d'avoir un droit d'admission de leurs patientes dans un hôpital local. Ces règles draconiennes ont contraint à la fermeture des dizaines de centres pour avortement au Texas. Pour les défenseurs du droit à l'interruption volontaire de grossesse, ce sont les mêmes assauts répétés contre la décision historique de la Cour suprême de 1973 légalisant l'avortement. Fin novembre, un adversaire de la mesure a abattu 3 personnes dans un centre de planning familial du Colorado. Ce débat passionnel, loin de se calmer, risque de revenir durant la campagne opposant Hillary Clinton à Donald Trump.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
Suite et fin des 8e de finale hier soir, et l'Espagne et l'Angleterre qui passent à la trappe.
Oui, un scénario incroyable hier à Nice, puisque l'Islande a réussi un superbe exploit en éliminant l'Angleterre 2-1. Les Islandais, menés dès la 5e minute après un pénalty de Rooney, ont renversé les Three Lions. Ils retrouveront la France en quart de finale dimanche au Stade de France. C'est un bel exploit pour ce petit poussé de la compétition, comme nous l'explique Jean-Roger Billon.
Et il ne fallait pas arriver en retard hier à Nice sur un pénalty logique accordé aux Anglais. Wayne Rooney ouvre le score dès la 4e minute de jeu. On se dit alors que les Islandais vont passer une mauvaise soirée, mais il n'en fut rien. Les Islandais égalisent quelques instants plus tard grâce à Sigurdsson. Pire, à la 18e minute de jeu, Sigurdsson trompe Joe Hart 2-1. L'Angleterre va pousser pendant tout le reste de la rencontre, mais va vite se rendre compte qu'elle n'a pas les moyens de bousculer une formation héroïque. Score final 2-1 pour l'Islande qui participe à son premier Euro. Nouvelle désillusion pour les Anglais qui perdent aussi leur sélectionneur. En effet, une fois la défaite consommée, le sélectionneur anglais Roy Hodgson a annoncé sa démission en conférence de presse. Le sélectionneur de 68 ans avait été nommé en mai 2012. Il avait survécu à l'élimination de l'Angleterre au premier tour du Mondial il y a 2 ans.
Je le disais précédemment, l'Espagne, tenante du titre, a été aussi éliminée hier soir.
Le choc Italie-Espagne, le remake de la finale de l'Euro 2012, eh bien l'Italie s'est brillamment qualifiée en gagnant 2-0. Notre correspondant à Paris, Christian Mpanzu, nous résume ce match.
Insatiable, l'Italie surprend une nouvelle fois la planète football. Face au double tenant du titre espagnol, la squadra azzurra a fait preuve de courage, mais aussi d'une immense culture tactique pour se qualifier. D'entrée de jeu, les joueurs d'Antonio Conte imposent leur pressing et gênent considérablement l'Espagne, qui peine à poser le pied sur le ballon. Offensivement, les Italiens amènent le danger en contre-attaque, et c'est d'ailleurs sur un contre qu'ils obtiennent un coup franc dangereux à 20 mètres face au but. Eder tire le coup franc, repoussé par David De Gea, mais Chiellini reprend le ballon et l'envoie au fond des filets à la 33e minute. En seconde période, les Espagnols se rebellent, retrouvent la possession du ballon et se procurent même plusieurs occasions jusqu'à la fin du temps réglementaire. Piqué a même une balle d'égalisation à moins de 5 minutes de la fin du match, mais Gianluigi Buffon sort une parade de très grande classe pour dévier le ballon. Quelques instants plus tard, les Italiens inscrivent le deuxième but. Pelé est à la conclusion d'un contre. L'Italie est désormais parmi les favoris de cet Euro et affrontera l'Allemagne ce samedi en quart de finale. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Merci Christian. Et à noter que les Italiens affronteront les Allemands en quart de finale. Un choc entre deux références du foot mondial. C'est le coup de sifflet tout de suite de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. Le match Italie-Espagne était à juste titre le choc surprise des huitièmes de finale de l'Euro 2016. Une finale avant la lettre opposant plutôt que prévu le champion et le vice-champion de l'édition précédente. En battant l'Espagne par le score confortable de 2-0, la squadra azzurra se paye non seulement le luxe d'une revanche, mais décroche aussi la responsabilité d'affronter en quart de finale la montagne allemande dans une affiche intemporelle entre les deux formations européennes les plus titrées de l'histoire du football. Plus en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Europe, les rencontres entre l'Allemagne et l'Italie ont toujours constitué des matchs référence avec leur lot de souvenirs de légende. Nul n'a oublié la finale échevelée d'Espagne 82 et ce troisième but du break de l'infatigable Marco Tardelli qui mettait fin aux espoirs de la Mannschaft. Ou encore la dramatique course-poursuite de Mexico 70 et ce bras en écharpe du capitaine courage allemand Franz Beckenbauer passé à la postérité. Après le match exceptionnel de Ligue des champions du mois de février entre la Juventus de Turin et le Bayern de Munich, au statut des équipes nationales, nul doute que les deux mastodontes européens vont nous livrer un quart de finale mémorable. On ose espérer que le vainqueur gardera assez de ressources pour valider son parcours en fin de compétition. À demain.
Nicolas, on récapitule avec vous le tableau des quarts de finale.
Oui, dès jeudi, Pologne-Portugal, vendredi, Belgique-Pays de Galles, samedi, Italie-Allemagne et dimanche, au Stade de France, les Bleus affrontent l'Islande.
Les autres sports en bref, le tennis.
Novak Djokovic a vécu des débuts contrastés sur long gazon de Wimbledon, où malgré une alerte dans le deuxième set, il s'est néanmoins défait sans trop d'accroc du Britannique James Ward. Le score 6-0, 7-6, 6-4. Le numéro 1 mondial et double tenant du titre s'annonce comme le grandissime favori du tournoi après avoir remporté ses 4 précédentes finales majeures.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les associations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso le 20 mars. Deux opposants sont en prison pendant que le révérend pasteur Tata Ntoumi, objet d'un mandat d'arrêt, est retourné dans la clandestinité. Hier, le ministère public a requis 5 ans de prison ferme pour Paulin Makaya. Pour faire le point, Idriss Fall a joint Trésor Chardon Zila Kande, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
C'est le ministère public qui a requis cette peine. Attendons voir le verdict final qui est programmé pour le 25. J'espère que le tribunal ne va pas donner un feu vert à ce réquisitoire. Si était tenté de police, on reste encore un peu confiant. Espérons que le tribunal va prononcer l'acquittement pure et simple de M. Paulin Makaya. Parce que pour nous, Paulin Makaya a été arrêté et détenu simplement pour ses opinions politiques. Il est hors de question que M. Paulin Makaya soit condamné pour avoir appelé à la désobéissance civile et pour avoir manifesté le projet de référendum.
M. Makaya, avant de rentrer en 2014, il était resté en exil pendant 17 ans, non?
Oui, il est resté en exil pendant plein d'années. Il est revenu parce qu'il, lui-même, dans son discours, il est revenu pour prendre part au débat politique et apporter sa pierre dans la construction de la petite démocratie. On a en face de nous un dictateur qui pense qu'il n'a pas besoin de voir des opposants. Alors il faut les étouffer, mais c'est vraiment inadmissible.
Parlant des opposants, qu'en est-il du cas du général Jean-Marie Michel Mokoko?
Le général Jean-Marie Michel Mokoko est aujourd'hui en prison, en détention préventive. Là encore, c'est un signal fort de la répression qui se constitue.
Et est-ce qu'on a des nouvelles de Tata Ntoumi, lui aussi recherché et accusé de violence dans la région du Poule?
Aucune information alternative. En ce que je sache, tirer encore les tranchées en forêt dans le département du Poule. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis entre lui et deux de ses proches.
M. Sassou Nguesso vient de remporter les élections le 20 mars dernier, non?
La Cour constitutionnelle a confirmé sa victoire. Rien ne lui empêche de gouverner. Alors, s'en prendre à des adversaires, c'est incompréhensible pour nous. Il s'est dit qu'il a remporté la victoire. Il n'a pas gouverné. Pourquoi vouloir réduire au silence les opposants? Nous ne comprenons pas. Je pense que la dégradation de la situation politique en République du Congo doit pousser la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la fonctionnalité et les Nations Unis à agir face à la répression qui se constitue contre les opposants. C'est vraiment inadmissible qu'un État membre de l'Organisation des Nations Unies se permette de bafouer les droits et libertés fondamentales. Je pense que la communauté internationale doit agir.
Trésor Chardon Zala Kende, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Au Mali, la réforme de l'État était au centre d'une rencontre de réflexion organisée par la Fondation Frédéric Herbert. Les débats ont porté sur les réformes administratives, économiques et sociales. Les découpages territoriaux et la gestion de la crise que connaît le pays ont été également abordés. De Bamako, compte rendu de Kassim Traoré.
Mali post-crise, quelle réforme pour un Mali stable et prospère? Tel est le thème de cette rencontre qui doit faire une saine évaluation des réformes menées au Mali, identifier les insuffisances pour proposer des solutions. Yohann Arik Falbuche, représentant résident de la Fondation Frédéric Hébert au Mali.
Nous avons suivi la mise en place de plusieurs réformes et nous constatons en même temps que les citoyens maliens exigent encore des réformes. Alors, nous nous intégrons sur l'adéquation des dites réformes et les attentes des populations, notamment des jeunes qui espèrent de l'emploi, des centres, de la justice et une meilleure éducation. Dont les priorités sont constituées en plus de la sécurité, de la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la corruption.
Le Mali, pour sortir de la crise, a besoin des réformes politiques et institutionnelles pour prendre en compte les défis et des réformes économiques, sociales pour garantir le développement durable. Les participants se sont prononcés sur ces deux questions. Mohamed Mohamed Erlaf, ministre malien chargé de la décentralisation et de la réforme de l'État.
Ces réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales, bien marquées dans l'accord pour la paix et la réconciliation, sont déterminantes, mais sûrement insuffisantes, comme toute œuvre humaine, pour donner une opportunité au Mali d'asseoir une démocratie et un développement profondément ancrés dans sa société. D'où la nécessité évidente d'institutions stables et crédibles et d'acteurs conscients du devenir commun façonné par des siècles de convivialité et de brassage des races et des cultures.
Parmi les réformes qui dorment dans les tiroirs, il y a la loi portant création de 14 nouvelles régions au Mali. Jusqu'à présent, il n'y a que deux régions qui ont été créées, Kaba-Diakité, notable de Bougouni.
Les régions vont être mises en place de façon progressive pendant 5 ans, notamment déjà la 5e année, à part les régions de Taoudéni, Tombouctou, Gao, Kidal et Menaka, les 14 autres régions n'ont pas été découpées. Donc c'est pour rappeler aux autorités qu'il est vraiment temps d'opérationnaliser les 14 autres régions.
Pour le président du SADI, il y a de l'urgence, c'est pourquoi il souhaite la mise en place des autorités intérimaires afin de faciliter le retour de l'État dans les localités où il n'existe pas. Oumar Mariko.
Dans les environs de Tenangou, il n'y a pas le pouvoir n'est pas là-bas. Aucun symbole de l'État n'est là-bas. Vous prenez Douanzan. Sur les 15 communes de Douanzan, le symbole de l'État n'existe pas pratiquement dans 8 à 9 communes de Douanzan. En tout cas, une chose est claire, pour ce qui concerne Kidal, qui est en tout cas un point focal extrêmement important, il est nécessaire qu'aujourd'hui et très rapidement qu'on mette sur place des autorités intérimaires. La nature a horreur du vide.
En tout cas, 70% des Maliens souhaitent une réforme de l'État selon un sondage réalisé en 2015 par Mali Maître. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Une bande dessinée intitulée Kuka, à laquelle est annexé un jeu concours sur le phénomène de la corruption, tel est le défi du RENLAC, Réseau national de lutte anti-corruption du Burkina, pour initier, informer, sensibiliser les jeunes de 7 à 16 ans. L'objectif est qu'ils puissent plus tard porter fièrement le nom Burkina, c'est-à-dire homme intègre, nous dit de Ouagadougou Zoumana Wonogo.
Il y a eu en tout 12 primés, 6 du primaire et 6 du secondaire. Les prix vont de 35 000 francs CFA à 160 000. Claude Ouetta, le secrétaire exécutif du RENLAC, le Réseau national de lutte anticorruption, explique les objectifs du jeu concours Kuka.
Globalement, ce qu'on cherche à travers effectivement le jeu concours, c'est de faire en sorte que la jeunesse s'intéresse à la lecture, qui leur permet de mener des combats qui sont des combats nobles et qui permet effectivement de promouvoir la lutte anticorruption dans notre pays. La mayonnaise est en train de prendre. Au départ, on avait été à 15 000 exemplaires. Actuellement, on est à 35 000. Et je pense qu'on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Avec les jeunes primés, nous avons essayé à notre manière un concours sur leur connaissance de la corruption.
Je m'appelle Koulibaly Wokaren Pascal. J'ai été premier du jeu concours Kuka du primaire. Pour moi, la corruption est un frein au développement de notre pays. Je pense que la bande dessinée Kuka peut servir aux jeunes dans la lutte contre la corruption.
Je m'appelle Sawadogo Olive à Delft. Quand on dit corruption, ça veut dire qu'il y a au moins deux personnes, c'est-à-dire un corrupteur et un corrompu. Je pense que la corruption n'est pas bien. Je dis aux gens de ne pas aimer la corruption, car c'est un mauvais acte qui ne rapporte rien, mais au contraire qui fait du mal à l'économie du pays. Un bon Burkinabé doit éviter la corruption. Burkina signifie pays des hommes intègres.
Pour l'obtenir Patrick parfait, la corruption c'est le fait d'user de ses fonctions officielles pour en tirer un gain personnel. La corruption, ça tue l'économie d'un pays. On doit lutter contre la corruption. Nous les enfants, ça nous permet très tôt d'apprendre pour que quand nous grandissons, nous soyons intègres.
Le RENLAC produit chaque année un rapport sur l'état de la corruption au Burkina, suivant avec son secrétaire exécutif Claude Ouetta le classement des secteurs les plus corrompus au Faso.
Les secteurs corrompus, ce qu'on a constaté, c'est que c'était les marchés publics qui étaient en tête. Ensuite, il y a la douane qui est en deuxième position. Et ensuite, il y a la police municipale. Si on prend par exemple les notes de Transparency International, on a 3,8 sur 20. Ça veut dire que c'est une note qui n'est pas proche de la moyenne. Lorsque nous faisons nos enquêtes, presque 80% et peut-être même quelquefois un peu plus disent que la corruption est forte ou très forte dans notre pays.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Le vote des Britanniques jeudi pour une sortie de l'Union européenne pose une série de questions politiques, économiques et constitutionnelles. Pour les responsables européens, la procédure de retrait doit être initiée le plus tôt possible. Le Brexit pourrait-il faire contagion dans le reste de l'Union européenne? Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Bruxelles, l'auteur de droit de l'Union européenne et professeur à l'Université libre de Bruxelles, Marianne Donny.
Le risque de contagion n'est évidemment pas sous-estimé, mais pas surestimé non plus. Pour le moment, il n'y a aucun parti au pouvoir dans les autres États membres qui envisage d'organiser un référendum sur le maintien de son pays dans l'Union européenne. Il y a bien sûr des demandes, mais pour le moment, elles émanent uniquement de partis qui sont dans l'opposition. Mais le Royaume-Uni montre que parfois les pressions venant de l'opposition peuvent conduire les gouvernements à ce genre de décision. Donc un risque de contagion, ce n'est pas totalement à exclure, mais ça me paraît quand même assez peu probable, d'autant plus que tout le monde semble maintenant prendre conscience que ce n'est pas si facile que ça de se retirer de l'Union européenne, que les questions sont très nombreuses.
Et quel type de relation entre les 27 et le Royaume-Uni?
Tout le monde semble d'accord pour dire qu'il ne faut pas rompre les ponts, personne n'y aurait intérêt, qu'il faut maintenir des relations économiques, qu'il faudrait sauvegarder le plus possible du marché intérieur. Du côté des 27, on ne veut pas donner l'idée qu'on pourrait se retirer et puis finalement avoir tous les avantages sans les inconvénients ou sans les contraintes. Donc les négociations vont sans doute être assez difficiles pour le moment. Aucun des grands types d'accords qu'on connaît, que ce soit l'espace économique européen ou l'accord avec la Suisse ou l'accord avec la Turquie, ne conviendrait aux deux parties. Donc il va sans doute falloir inventer quelque chose qui soit fait sur mesure pour cette situation tout à fait spécifique du Royaume-Uni dont l'Union européenne a besoin, qui a besoin de l'Union européenne et qui d'un autre côté voudrait avoir moins de liberté des travailleurs. Mais c'est difficile d'imaginer que les autres pays lui accordent la libre circulation des travailleurs ou qu'il puisse refuser la libre circulation des travailleurs plutôt et par exemple demander le libre accès au marché pour ses banques. Il va y avoir un donnant-donnant inévitablement.
Est-ce que ce référendum, c'était une erreur?
Clairement, c'était une grave erreur politique. David Cameron, il était un habitué des coups de poker qu'il avait gagné haut la main jusque-là. Et là, pour une fois, il s'est brûlé les doigts et malheureusement, tout le monde avec lui.
Marianne Donny de l'Université libre de Bruxelles. La Minute Éco, Anastasie Toudiesh.
Le groupe français Atos, spécialisé dans les services numériques, a inauguré la semaine dernière son centre de services numériques pour l'Afrique de l'Ouest. 250 ingénieurs sénégalais y travaillent déjà, un effectif qui pourrait être porté à 400 d'ici fin 2016. Numérique toujours en République démocratique du Congo, où l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, la RPTC, a fini par réagir à la hausse spectaculaire du prix de vente des données mobiles intervenue le mois dernier. Les opérateurs de téléphonie mobile, rappelés à l'ordre pour revenir à l'ancienne grille tarifaire, n'ont appliqué que partiellement ces recommandations de l'institution. Au Burkina Faso, selon l'agence APA News, des hommes d'affaires turcs envisagent d'investir 70 millions de dollars dans l'installation d'une usine de filature de coton. Ce projet turco-allemand sera installé dans la zone de Bobo-Dioulasso et emploiera plus de 1200 personnes. Dans un premier temps, l'usine se spécialisera dans la transformation du coton en fil et ensuite du fil en tissu avant de transformer le tissu en vêtements. Une bonne nouvelle pour la Bank of Africa Mali qui enregistre une hausse de 60,8% au premier trimestre comparé à la même période pour 2015. Ce bénéfice est de 2,294 milliards de francs CFA contre 1,427 milliards de francs CFA au premier trimestre 2015, soit une augmentation de 867 millions de francs CFA.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.